Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui au chemin de mai 68. Et pour parler de ce sujet, nous sommes avec Michael Seidman, historien et auteur sur ce sujet d'un ouvrage, The Imaginary Revolution, Parisian Students and Workers in 1968. Donc la révolution imaginaire, les étudiants et les travailleurs parisiens en 1968, donc qui est paru en 2004 et qui est un ouvrage assez intéressant précisément parce qu'il propose de montrer que la conflictualité sociale qui s'est déroulée en mai 68 et en mai-juin 68 avait en réalité des antécédents et qu'en réalité les années 60 ont également été des années conflictuelles qui ont préparé mai 68. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera pas tellement, du coup, mai-juin 68. Là, on renvoie à d'autres émissions qu'on a pu faire et qu'on va faire, et aussi à l'ouvrage de Michael Seidman pour les anglophones. Mais là, on va parler vraiment des chemins de mai 68. Comment est-ce que cette conflictualité sociale va s'exprimer? Quelles sont les brèches, entre guillemets, qui vont s'ouvrir avant le moment 68? Donc, bonjour, Michael Seidman.
Bonjour.
Alors, du coup, à partir de quand est-ce qu'on peut observer dans la société française des années 60 des brèches croissantes? Et aussi, pourquoi parler des années 60 plutôt que des années 68?
Oui, je suis le chemin d'un historien anglais, un pionnier de l'histoire sociale qui s'appelle Arthur Marwick, qui est mort malheureusement. Et il a écrit un livre il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Les années 60, révolution culturelle, Grande-Bretagne, les États-Unis, France et Italie. Donc c'était un livre avec une étendue énorme qui couvre ces quatre pays et vraiment la culture occidentale et les effets de ce que Marwick appelle une révolution culturelle, les grands changements envers le multiculturalisme. Marwick a dit que le multiculturalisme est un produit des années 60. La tolération des différentes sexualités aussi un produit des changements des années 60. Et en même temps, un certain antiracisme produit des années 60, tolérance, une acceptation de l'individualisme aussi. Donc il y a ces courants que, dans la culture occidentale qui a fondamentalement changé l'Occident.
Oui, c'est-à-dire que finalement, quelque chose qu'on date plutôt d'habituellement des années 70... réalité aurait commencé en réalité dans les années 60, notamment...
Et même à la fin des années 50.
Et même à la fin des années 50.
Oui, parce que Marwick, sa périodisation commence vers 58 et dure jusqu'à 73.
Et donc ces espèces de longues années 60, hein, comme on dit en histoire,
oui,
auraient vu finalement voilà, un certain nombre de mutations sociales qui vont se manifester de manière éclatante en 68 et de manière voilà, qualitativement et quantitativement supérieure, mais qui malgré tout en procède. Notamment, tu as parlé de l'individualisme qui, effectivement, aujourd'hui... dans certains courants réactionnaires à très mauvaise presse, qui peut aujourd'hui apparaître uniquement comme un pur produit de la société capitaliste, mais qui, à l'époque, a permis à des individus de s'affranchir de l'autorité de l'Église, de l'autorité paternelle. Et c'est précisément cette espèce de révolte individuelle, hein, qui va prendre ensuite une dimension de plus en plus collective, qui va vraiment faire la marque de 68.
Oui, il y a un courant de l'individualisme qui est souvent ignoré, pas en France, mais aux États-Unis et en Angleterre, qui est, je pense, assez important.
Ça, c'est quelque chose d'intéressant, cet affranchissement, effectivement, des normes traditionnelles de la société. Il y a eu une espèce de retour à l'ordre moral après 1945 dans toutes les sociétés occidentales. Et dans les années 60, il y a une espèce de multiplication des brèches. Voilà, il y a une espèce de révolte contre l'autorité traditionnelle, une révolte aussi contre une sexualité extrêmement normative. Voilà, est-ce que tu peux développer un petit peu cet aspect-là ?
Oui, ça, je pense, est très intéressant en France parce qu'on a souvent dit que la France était une société bloquée. Mais si on étudie les années 60 en France, on montre, on voit par exemple Antony en 65, il y avait déjà des protestes, la contestation contre les résidences qui séparaient les hommes et les femmes. Et en effet, en 65, il y avait un mouvement des étudiants qui a appliqué, qui a cassé les prohibitions, qui a appliqué une mixité de fait dans les résidences. Et en plus, il y avait une grève de loyer. Il y avait des squatteurs dans les résidences universitaires qui ne payaient pas le loyer. L'administration était plus ou moins incapable de contrer ces mouvements pour plus liberté sexuelle et contre le loyer.
Et donc finalement, ce que tu montres dans ton ouvrage, c'est que il faut pas attendre 67 ou même 68 et les révoltes à Nanterre pour voir effectivement une contestation de la non-mixité des dortoirs universitaires et la révolte contre effectivement l'ordre moral qui allait derrière, mais qu'en réalité on en trouve des signes dès 1965 et qui s'accompagnent pas uniquement, et c'est vrai qu'on pourrait aujourd'hui, hein, avec les commémorations en France de mai 68, voir uniquement une dimension libérale finalement à ce mouvement, mais on voit que dès 65, ça s'accompagne aussi de grèves de loyers, qui pour le coup ne rentrent pas trop dans le cadre de ce grand récit libéral.
Oui, exactement, et oui, et les squats aussi qui étaient là. En effet, pour beaucoup d'étudiants étrangers, on logeait les gens où ils ne devraient pas loger. Donc il y avait ça qui a vraiment transgressé les normes. Même plus, il y avait des règlements contre la propagande politique dans les résidences et tout ça. Mais bien sûr, les étudiants ignoraient tout ça. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, plus ou moins des 65.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de politisation accélérée qui a préparé mai 68. Évidemment,
oui.
Tout le monde n'est pas... C'est pas en mai 68 que tout le monde s'est politisé, mais que ça a été une espèce de processus un peu plus long qui commence du coup en 65, même s'il y a évidemment... il y a eu aussi la politisation antérieure de la génération de la guerre d'Algérie. Mais là, effectivement, peut-être qu'en 65, c'est une nouvelle génération d'étudiants qui est encore moins marquée par, disons, les modèles de pensée hérités des années 50, un marxisme très fermé et figé, ou uniquement un anticolonialisme presque humaniste, etc., etc.
mais qui vont pouvoir, et c'est pour ça par exemple qu'à Nanterre, finalement, les anarchistes sont quand même relativement forts en 67-68.
On peut d'ailleurs renvoyer là-dessus à deux livres, donc évidemment Enragé et situationniste dans le mouvement des occupations, publié aux éditions Gallimard en 1968, et qui livre un petit peu le récit des origines de mai 68 du point de vue situationniste, et puis également un ouvrage fort intéressant, Les situationnistes et l'anarchie de Miguel Amoros, paru aux éditions de Larousse en 2012, et qui revient sur les rapports évidemment entre les situationnistes et les différents groupes anarchistes dans les années 1960, mais qui dans son dernier chapitre parle également de manière très intéressante des enragés de Nanterre, avec notamment une critique de Daniel Cohn-Bendit et du mouvement de 22 mars, que l'auteur qualifie d'anarchistes réformistes radicaux. L'auteur insiste également de manière assez intéressante sur comment est-ce que finalement quelques enragés de Nanterre, proches des idées situationnistes, vont réussir à coup de provocation à enflammer l'université et progressivement la faire basculer vers la conflictualité, une conflictualité qui n'est pas l'unique origine évidemment de mai 68, mais qui en est du moins une des principales. L'international situationniste décrivait ainsi la tactique des enragés, la généralisation de l'usage de l'insulte méritée, du graffiti, le mot d'ordre de boycott inconditionnel des examens, la distribution de tracts dans les locaux universitaires, le scandale quotidien de leur existence. C'est notamment à l'initiative des enragés que l'occupation de la fac de Nanterre fut décidée en mars 1968, et ils couvrirent le bâtiment de slogans comme « Ne travaillez jamais », et les orangés, d'ailleurs, plutôt que de louer les mérites du mouvement du 22 mars, qu'ils voient comme des anarchistes réformistes, eh bien, ils vont plutôt louer les émeutes de Watts et de Détroit, donc de prolétaires racisés aux États-Unis. Miguel Amoros apprécie ainsi le rôle des enragés. En montrant la répression comme son ultima ratio, les enragés avaient achevé la première phase de leur existence en démasquant l'autorité universitaire, et avec elle les archaïsmes hiérarchiques et disciplinaires à peine dissimulés, la vacuité des réformes, le rôle récupérateur et manipulateur des professeurs entre guillemets progressistes et de la bureaucratie étudiante, la stupidité militante et enfin la déraison du système d'enseignement et sa fausse contestation. En sabotant le fonctionnement de l'université de Nanterre et en s'expliquant dans un langage original on ne peut plus approprié, ils avaient semé le vent du désordre pour récolter la tempête révolutionnaire. Bon, évidemment, les enragés de Nanterre joueront ensuite un rôle assez important en mai 68, même si ils ne sont pas exempts de critiques.
Oui, absolument. Et une autre perception, si elle est plus générale, c'est qu'en France, il y a une conception de 1968 comme une brèche. Même il y a un livre qui s'appelle « La brèche » de Edgar Morin, Cornelius Castoriadis et un autre auteur. Et aussi, et ça, évidemment, vient de la gauche, mais aussi, il y a les journalistes comme Eric Zemmour qui parlent aussi d'une brèche créée par 68, bien sûr, du point de vue contre-révolutionnaire. Zemmour, c'est une contre-révolutionnaire culturelle, mais les deux visions de droite et de gauche voient 68 comme une brèche, mais si on remonte dans le temps, on voit que 68 fait partie d'une période plus large qui a commencé des années avant 68 lui-même et a continué jusqu'à les années 70 et peut-être continue jusqu'à aujourd'hui. Mais cette révolution culturelle, bien sûr, a provoqué une contre-révolution culturelle aussi. Oui, qui Zemmour et les autres, Sarkozy sont de bons exemples.
Oui, c'est-à-dire que en fait, 68 n'est que presque l'épicentre, d'une certaine manière, d'une révolution culturelle plus large, qui a été, à partir des années 80 notamment, qui a fait l'objet d'une espèce de contre-révolution culturelle.
Oui, l'épicentre, c'est un très bon mot pour décrire la façon dans laquelle les Français analysent 68.
Et peut-être qu'on peut parler aussi de ce qui se passe avant 68 en termes d'anti-travail, de refus du travail, de résistance au travail, puisque ça va être un thème très important de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle en France les années 68, disons de 68 et des années qui la suivent, avec le fameux slogan « situationniste ne travaillait jamais », la diffusion des idées situationnistes, le refus du travail en Italie. Comment est-ce que ça se manifeste avant 68 en France ?
Oui, avant les années 60, je pense que l'anti-travail était une chose très minoritaire. Des groupes avant-garde, surréalistes, situationnistes. Mais pendant les années 68, l'anti-travail devient un thème assez important dans certains milieux d'extrême-gauche. Pour la première fois, ça a touché un mouvement de masse et les situationnistes, comme tu as dit avec leur slogan « Ne travaillez jamais », s'est répandu partout.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de saut qualitatif, c'est-à-dire que la critique du travail en France était principalement cantonnée dans la fin des années 40 aux surréalistes, ça des groupes extrêmement minoritaires, et ensuite ça va prendre vraiment une dimension beaucoup plus massive en 68, et ça c'est lié notamment à la diffusion des idées situationnistes dans les années 65-68, notamment des textes dont on a parlé dans d'autres émissions, de la misère en milieu étudiant, traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, oui. La société du spectacle,
oui.
et puis aussi à des pratiques comme effectivement le squat, la grève, oui. Des loyers, des pratiques, oui. Qui témoignaient du refus du travail.
Oui, et en même temps, ça va provoquer une contre-révolution qui dure jusqu'à aujourd'hui de la part de Sarkozy, de la part de Zemmour et d'autres gens qui disent que 68 représente la décadence et il faut lutter contre ces changements culturels dont l'anti-travail fait une partie.
Finalement, c'est peut-être moins d'un point de vue objectif que 68 a changé énormément de choses au niveau des structures sociales, mais plutôt au niveau des subjectivités, au niveau de la sexualité, effectivement de la naissance du mouvement homosexuel
oui,
en France, du féminisme.
Oui, après 68, et aussi un questionnement sur le soi-disant roman national. Je pense que ça, c'est aussi très important en France. Et ça va avec le multiculturalisme. Oui, il y avait une sorte de perte de confiance dans l'histoire française présentée comme un roman national.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, d'une certaine manière, une brèche dans la grande unanimité patriotique qui avait suivi 1945.
Exactement. Que la société française encore lutte ces questions sur tout ça.
Et effectivement, c'est là où on voit toute l'actualité, un petit peu des dynamiques qui ont surgi à cette époque, même si là, pour le coup, en ce moment, on assisterait plutôt à une dynamique inverse de contre-révolution culturelle.
Oui, oui. Je pense les deux choses se luttent l'un contre l'autre jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien, on espère que du coup, cette émission vous aura intéressé et vous donnera envie de lire, si vous êtes anglophone, cet ouvrage, The Imaginary Revolution, qui d'ailleurs a été nominé pour le prix du titre le plus original. C'est pas étonnant parce que c'est vrai que c'est assez amusant comme titre. Donc,
merci
Michael Seidman.
Merci, c'était un plaisir.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Thank you.